Pavillon Nomade. Le direct.
Bonjour et bienvenue pour ce direct de Pavillon Nomade. Comme tous les jeudis, nous sommes autour de la table du studio. Aujourd'hui en compagnie de Suzanne, Mélissandre, Christian, Dominique et Julien à la technique. Merci à vous d'être là et merci à Isabelle Wistina-Zuber qui nous a rejoint aujourd'hui pour cette émission. Isabelle est notre invitée fil rouge et donc ce que je vous propose à vous toutes et tous qui êtes là, bien c'est de vous saisir du micro et de poser toutes les questions que vous avez envie de lui poser, libre à elle d'y répondre ou de vous poser aussi des questions.
Merci beaucoup de m'avoir invitée, je suis ravie d'être là.
Isabelle Wistina-Zuber, vous publiez aux éditions Pilet un livre, ou plutôt une lettre à votre sœur. C'est un court récit qui prend aux tripes dès la première page. On peut y lire « Nous étions trois sœurs, une folle, une morte, une ingérable ». Et dans le préambule, vous dites avoir envie certains jours de sortir dans la rue et de crier « J'ai perdu ma sœur » et de supplier aussi « Rendez-moi ma sœur ». Cette sœur, on va en parler. Mais c'est vous, Isabelle, que l'on rencontre aujourd'hui. Et ma première question est toute simple. Comment allez-vous ?
Je vais bien, merci. Je suis ravie de la sortie prochaine de mon livre, qui en fait arrivera sous sa forme papier soit samedi, soit en début de semaine prochaine. En même temps, je suis un peu stressée. Et puis ça me rappelle beaucoup, beaucoup de souvenirs qui ne sont pas évoqués dans mon récit, qui, comme vous l'avez dit, est court. Et ce n'est pas toujours facile. Parce que c'est très émouvant, parce que justement ma sœur n'est plus là.
Vous êtes thérapeute avec plusieurs cordes à votre arc, dont celle de médiatrice, et vous vous adressez tant aux enfants qu'aux adultes. Pourquoi ce choix de vie ?
Eh bien, je pense qu'il y a une piste de réponse dans le livre. Ma sœur est tombée malade quand moi j'avais entre 10 et 12 ans. Elle a commencé à avoir des troubles, j'avais 10 ans, elle en avait 17, on avait 7 ans de différence. Et j'étais profondément marquée, pour toujours, par le moment où elle est tombée malade. Et ce qui fait que quand j'étais adolescente, quand j'étais au cycle d'orientation, j'ai emprunté tous les livres que j'ai trouvés sur la psychanalyse, sur la thérapie, dans notre petite bibliothèque de commune. Parce que se sentir impuissant face à quelqu'un qui souffre, je trouve que c'est très difficile. Donc je pense qu'il y avait là, quelque chose de l'ordre de vouloir réparer. Et puis bien sûr que je n'ai jamais pu réparer, entre guillemets, comme s'il y avait quelque chose à réparer d'ailleurs, ce qui n'allait pas, ce qui faisait que ma sœur par moment était malade. Mais ça fait sortir de l'impuissance d'apprendre la thérapie et aussi... Quand on est, ce que j'ai aussi écrit dans le livre, je ne sais plus où, quand on vit avec quelqu'un qui a un trouble psychique chronique et donc qui a un psychisme un peu particulier, eh bien on reste jamais dans la superficialité, on ne peut pas. On aime la profondeur, on aime les vrais échanges et ça c'est un terrain favorable pour travailler comme thérapeute.
Et ces échanges-là, eh bien, on les a autour de la table de Pavillon Nomade. Vous n'évoquez pas complètement le trouble dont souffre votre sœur, vous le qualifiez de monstre.
Alors, c'est moi qui l'ai nommé le monstre. Ma sœur Anne souffrait d'un trouble bipolaire et c'est arrivé tellement soudainement et... Elle était tellement différente quand elle était décompensée ou en crise que le reste du temps que je sais que c'est faux, mais j'avais l'impression que c'était un monstre qui prenait possession d'elle. Et un monstre, pourquoi ? Parce qu'un monstre, ça ne fait pas du bien. Et quand on est très malade, on n'est pas dans un état où on se sent bien. Ça effraie les autres aussi. Ça m'a effrayée beaucoup. Voilà pourquoi j'appelle cette maladie le monstre. C'est ma manière de tenter de la mettre à distance.
Ça vous effraie et ça va terroriser toute la famille.
Alors, oui, en quelque sorte, oui. Ça va surtout... au moment où ma sœur est tombée malade, c'était dans les années 70. Et puis à ce moment-là, personnellement, je n'avais jamais connu de personne qui avait été hospitalisée à Malévo à ce moment-là. À cette période-là, on parlait même pas de dépression. De souffrir de dépression, c'était la honte. Et donc, bien sûr que ça... Mais ça nous a surtout fait mal au cœur, plutôt que de nous terroriser. Et on était très démunis. Et mis à part ça, le trouble bipolaire, c'est quand même un trouble assez important, qui fait que si on ne connaît rien de lui, et on connaissait rien de lui dans ma famille, il n'y avait pas de raison pour le connaître. Il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas de psy dans ma famille. Ça fait peur. On ne sait pas comment ça va se passer. On ne comprend pas trop ce qui se passe.
Oui, vous l'avez dit, on est dans les années 70. À cette époque, on ne mettait pas de mots sur les mots. Lorsque une personne était psychologiquement fragile, elle était folle.
Oui, c'est d'ailleurs pour ça que c'est assez provocant le début, hein, ce que vous avez lu. C'est aussi provocant, mais parce que j'ai repris les mots de ma sœur, qui à un moment donné, on avait tellement marre qu'on ne lui parle pas de ce qu'elle vivait, que pour provoquer, je pense que dans une recherche qu'on dialogue avec elle, disait aux gens qui la revoyaient après ses premières hospitalisations, oui, j'étais pas là parce qu'en fait, je suis folle, ou parce que j'étais folle. Et malheureusement, en tout cas, pas en ma présence, il n'y a jamais personne qui a répondu « Ah oui, mais qu'est-ce que tu as eu ?» Non, c'était... On passait tout de suite à un autre sujet.
Pouvoir parler, c'est quelque chose d'important, Suzanne ?
Ah oui, c'est capital, hein. Est-ce qu'elle a pu s'ouvrir et vraiment casser la carcasse dans laquelle elle était enfermée? Est-ce qu'elle a pu s'affirmer? Est-ce qu'elle a pu voir prendre des cours pour dire je et s'affirmer? Parce que en fait, c'est une souffrance qui n'a pas de commune mesure. Hein, vous êtes d'accord?
Oui.
C'est une souffrance qu'elle vivait et puis qu'elle pouvait pas partager.
Alors, je pense qu'elle partageait ce qu'elle vivait avec moi, notamment, après avec son mari. Elle partageait avec une amie proche aussi, puis elle partageait avec les soignants. Je ne suis pas sûre qu'elle ait eu vraiment besoin de s'affirmer. Je ne sais pas si elle se sentait enfermée comme un carcan, mais Anne, lui, a beaucoup parlé. On vient d'une famille où on parle beaucoup, tous, en tout cas toutes les femmes. Et d'ailleurs, elle a écrit un livre elle-même qui s'appelle « Une voiture rayée, c'est dérisoire », qui est un récit où on ne sait pas trop si c'est elle, mais on sait que c'est elle finalement qui parle d'elle-même et des phases de dépression et des phases maniaques. D'ailleurs, si Anne n'avait pas écrit ce livre-là et si elle n'avait pas publiquement déclaré au bout de beaucoup d'années... Qu'elle souffrait d'un trouble bipolaire, jamais je me serais permise d'écrire ce que j'ai écrit. C'était pas à moi de le dire, mais elle l'a fait, ouais.
Pouvoir parler, Mélissandre, c'est quelque chose d'important pour vous aussi ?
Oui, en tout cas pour moi, c'est hyper important, justement, de pouvoir s'exprimer, pouvoir avoir ce qu'on ressent, parce que si on parle pas, on garde les choses en soi, et à un moment donné, d'une façon ou d'une autre, ça explose, et ça peut être très violent. Donc ouais, c'est important.
Isabelle ?
Oui, je peux renchérir.
Je vous vois hocher de la tête, oui. Oui. Suzanne, vous avez envie d'ailleurs ajouter quelque chose ?
Moi, je ne me suis pas présentée, mais je m'appelle Suzanne. Donc, et j'ai aussi un trouble bipolaire depuis une cinquantaine d'années déjà. Et j'ai connu les années 70, j'ai connu les mauvais diagnostics. Et par exemple... le diagnostic de la coupure des liens. Mmh. Mais j'ai quand même réussi à fonder une famille, à avoir deux enfants, et qui ont baigné dans cette sphère. Et j'ai dû me dépasser. J'ai dû me dépasser parce que, vous savez, c'est comme quelqu'un qui part en montagne. Hein? Alors, il se prépare et il ne va pas faire la fête tout le week-end et partir le lundi. Hein. C'est clair. Donc, il va avoir une discipline et partir. Ou le coureur qui se prépare à la course, il va il va mettre toutes les conditions de son côté pour gagner. Et moi, je suis toujours partie gagnante.
Oui.
Et j'ai gagné.
Vous avez gagné.
Yes.
Vous avez gagné une meilleure vie que si vous n'étiez pas préparée.
Ah oui. J'ai gagné une meilleure vie et j'ai gagné le fait que je me suis appuyée sur la médication.
Oui.
Qui est absolument capitale dans cette chronique. Il faut les médicaments. C'est absolument capital. Je le dis encore une fois, parce que sans ça, on ne peut pas arriver.
Oui.
Mais ce n'est pas tout. Hein? Et je vois que, je veux quand même le souligner, les ETC qu'on fait, qu'on pratique maintenant, cachent les électrochocs, le terme, qui sont des électrochocs, élaborés peut-être, mais en attendant, ça disculpe la personne de prendre la discipline de prendre ses médicaments tous les jours. Et du coup, elle est tranquille pendant quelques années, quelques mois, mais après, il faut recommencer. Et c'est un échappatoire, à mon avis, pour la discipline. Parce que ça fait quand même 22 ans, écoutez bien, 22 ans que je prends les médicaments tous les jours. Oui. Et je peux vous dire que ça empêche de profiter des vacances. Ça empêche de profiter des week-ends. Parce qu'il ne faut pas les laisser dans le tiroir. Hein.
Vous avez utilisé un terme intéressant, Suzanne, c'est le mot dépassement. Comment est-ce que ça réagit chez vous, Christian, le mot dépassement ?
Oh ben, moi, le dépassement, c'est, ça dépend dans quel sens on le prend. Parce que si on le prend dans le mauvais sens, ça ne va pas aller bien. Mais se dépasser soi-même pour une volonté qui est bénéfique pour soi, voire pour les autres, ça, moi je trouve que ça peut être bien, puis ça peut apporter des choses qui sont super, quoi, voilà. Pour autant que, bien sûr, on veut bien nous écouter, parce qu'il y a aussi bien des gens qui sont là, puis qui font la sourde oreille, puis... Oui, mais raconte quoi comme salade. Puis voilà, quoi.
Isabelle, est-ce que vous vous êtes dépassée en écrivant ce livre ?
J'utiliserai pas ce terme, non. Pas du tout. Je n'ai pas eu, parce que ce n'était pas un défi pour moi. Il n'y a personne qui m'obligeait de l'écrire, hein, du tout. J'avais besoin de l'écrire, vraiment. Parce que... Alors déjà, je trouve important, excusez-moi,
Suzanne.
Après avoir entendu Suzanne, je trouve important de dire que le peu que je dis du trouble bipolaire dans mon livre, en fait, ça parle du trouble bipolaire tel que vécu par ma sœur. Je pense qu'il y a plein de manières différentes d'être affecté par cette pathologie et je prétends pas du tout donner une image qui soit une image objective, standard du trouble bipolaire. Et des personnes qui en souffrent. Mais la manière dont a évolué ma sœur a fait qu'à un moment donné, on s'est éloigné. Et on s'est éloigné et j'ai dû m'éloigner pour me protéger parce qu'à un moment donné, elle n'avait plus que des reproches à me faire. Et ça a été perçu de manière tout à fait biaisée, selon moi, par une partie de ma famille. J'ai une très grande famille élargie. Comme si, en fait, je n'aimais pas ma sœur ou je n'aimais plus ma sœur. Et ce n'était pas du tout le cas. Et une fois qu'elle est décédée, j'ai vraiment eu besoin. En fait, c'est d'abord ça que j'ai eu besoin de dire, que j'aimais ma sœur, que bien sûr que j'aimais ma sœur.
Oui, ce livre, cette lettre à votre sœur, entre raison et déraison, et je l'ai dit bouleversant par sa densité, par ses phrases sobres et par votre histoire. Est-ce que écrire à votre sœur... Enfin, vous le dites, en fait, tout simplement, c'est que écrire à votre sœur est devenu indispensable à votre survie.
Oui, je ne supportais pas qu'on puisse penser que je n'avais plus aimé Anne, ou que peut-être je ne l'aimais pas vraiment. Et je supportais encore moins que certaines personnes m'aient dit que pas seulement que je la jugeais, mais que je la voyais juste comme une malade, parce que ça n'est jamais, 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 jamais été le cas. Et donc, en fait, ce n'est même pas par rapport à autrui, parce que... À la limite, une fois qu'on est adulte, on sait qu'il y a des gens qui nous apprécient, d'autres pas, certains qui nous comprennent, d'autres pas. Mais là, c'était quand même des personnes de mon entourage, de notre entourage. Et puis, je ne sais pas, j'ai eu besoin de dire ce que je ressentais vraiment. Après, je me suis dit que ça pouvait être très chouette de parler de ce qu'on avait vécu. J'avais déjà dit à Anne, quand elle a écrit son livre, quand elle se proposait d'écrire son livre, je lui avais dit, toi, si tu écris un livre sur le vécu des personnes qui souffrent d'un trouble bipolaire, moi, j'écrirais un livre sur le vécu des proches de personnes qui souffrent d'un trouble bipolaire, parce qu'on a vraiment mais peu eu d'aide. Hein. Puis quelque chose que je regrette, c'est que, alors bien sûr, c'est la liberté de chacun, mais c'est que quelqu'un est décompensé et va à l'hôpital, on s'adresse plus forcément à ses proches. Parce que si la personne ne veut pas, ben on respecte son souhait, mais on perd comme ça beaucoup, beaucoup de ressources qu'on pourrait avoir.
Ouais. Suzanne ?
Eh bien, je dirais que le trouble bipolaire, la caractéristique du trouble, c'est... Pour imaginer, hein, c'est d'être comme dans une pièce, vous avez soit trop chaud, soit trop froid. Vous n'arrivez jamais à être zen sous votre couverture ou dans votre duvet. Hein. Et puis, ça, c'est pour tout le monde, c'est pour toute cette pathologie. Puis en ce qui concerne d'aimer ou pas aimer, alors là, il faut bien penser que c'est des troubles qui coupent les liens.
Qui coupent les liens ?
Les liens.
Pourquoi ils coupent les liens ? Vous savez m'expliquer ?
Parce que les liens affectifs, c'est pourquoi on n'intervient pas beaucoup auprès des proches pour les amener à essayer de comprendre leur mère ou leur sœur ou leur mari. Vous voyez ? Parce que le lien est amenuisé.
Oui. Oui, c'est ce que j'ai ressenti aussi. Et.
Mais il faut que les proches comprennent qu'on n'est pas des malades, qu'on n'est pas des rien du tout. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut se dépasser. Parce qu'il faut montrer de quoi on est capable.
Oui.
Mélissandre, je vous vois très attentive à ce que dit Suzanne. Et vous acquiescez.
Oui, je trouve ça super intéressant et très important ce que vous dites. Justement, comprendre que... qu'on est quelqu'un, etc., et aussi pouvoir aller au-delà de cette maladie, où soit ça prend énormément de place dans qui on est, etc., dans nos agissements. Après, pour le coup, je ne suis pas très, très renseignée au niveau du trouble de la personnalité bipolaire, mais c'est aussi voir autre part et voir l'être humain, etc., et essayer de comprendre. Et pas que forcément la famille... aussi le reste du monde, parce que c'est vrai qu'il y a cette étiquette du fou, de la folle, qui fait qu'on est très, qu'on peut être, quand je dis on, c'est de façon impersonnelle, hein, très stigmatisé, très mis à l'écart. Et aussi, ouais, pouvoir voir justement la personne plutôt que plus loin que le trouble. Et je trouve ça très intéressant aussi ce que vous dites dans le fait de se dépasser, montrer de quoi on est capable et qu'on n'est pas uniquement notre trouble.
Comment ça résonne chez vous, ce que vient de dire Mélissandre, Isabelle ?
Oui, je trouve que... Enfin, je rejoins ses propos. Et par rapport à ma sœur, je pense qu'elle s'est beaucoup dépassée. Et en aucun cas, si on connaissait Anne, on pouvait penser qu'elle était réduite juste à sa maladie. Elle a écrit, elle est devenue écrivaine. Elle a fondé une association, Français en jeu, avec une collègue, pour enseigner le français aux étrangers. Elle s'est beaucoup investie, toujours dans un esprit solidaire. Et bien sûr que c'était, c'est aussi ce qu'a dit Suzanne avant, de se dépasser, de... C'était difficile en même temps parce que quand on écrit, on s'expose, parce qu'ensuite, si tout va bien, on est lu, on a des retours, et puis on se sent un petit peu comme ça, ouais, pas transparent, mais on peut voir des choses de nous, des gens qu'on ne connaît pas du tout. Et pour Anne, ça a été difficile. Certaines fois, la sortie de ses livres, au lieu d'être juste un moment de joie.
On va parler de cette écriture, de ce livre, de cette lettre à votre sœur. Mais je vous ai demandé, Isabelle, si vous aviez envie d'écouter de la musique. Vous m'avez proposé quelques titres. On va écouter ce premier titre, qui est un très, très beau titre et une très, très belle interprétation.
Je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée billée. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin.
C'est une magnifique chanson interprétée par Natacha Atlas, à l'origine interprétée par Françoise Hardy. Pourquoi ce choix, Isabelle Wistina Zuber?
Parce que je trouve cette chanson vraiment touchante, parce que c'est en rapport avec le décès de ma sœur. En fait, c'est pas très gai, mais cette chanson, je l'ai entendue pour la première fois à l'enterrement d'un proche. Et ça m'a aidée à pleurer. Je trouve que c'est parfois difficile de sortir des émotions. Et ouais, je trouve qu'elle va à l'intérieur. Et puis qu'elle fait allusion à la brièveté de la vie, au fait qu'on ne sait pas pour combien de temps on est là, que tout est temporaire.
C'est difficile de pleurer ?
Parfois, ouais. Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez, Mélissandre ?
Alors moi, je pleure très facilement. Du coup, c'est pas quelque chose qui est très compliqué pour moi. Je vois que ça peut être compliqué, ouais. C'est plus compliqué d'accepter de pleurer dans certaines situations. Mais je sais que très personnellement, il y a des situations que j'évite parce que je sais que ça va me faire mal, que je vais pleurer. Et du coup, j'évite au maximum. Mais d'un autre côté, c'est bien. Mais à petite quantité. Enfin, pas trop. Si on fait que pleurer, c'est frustrant au bout d'un moment. C'est énervant. C'est un peu compliqué à structurer, mais voilà.
Qu'est-ce que vous en pensez, Christian, par rapport aux pleurs ? Faut prendre le micro, autrement on vous entendra pas. Parce que il y a des pleurs, il y a des larmes, mais il y a aussi des larmes de joie.
Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Enfin, quand on n'est vraiment pas bien, ben, et puis que ça doit sortir, c'est mieux que ça sorte. Donc, c'est bien de pleurer parce que rester comme ça, puis enfermer, on fait quoi ? On reporte, puis on se sent encore plus mal chaque fois. Alors, de pleurer quand il faut pleurer, c'est une bonne échappatoire pour moi. Et si c'est pleurer de joie, c'est la même chose. Au moins, on montre aux gens que... Voilà, quoi. C'est bien.
Revenons à cette lettre à votre sœur Isabelle. Vous écrivez dans cette lettre « Les mots servent à révéler les joyaux qui sont en nous et que recèle la vie ». Que vous a apporté l'écriture de cette lettre ?
Ça m'a apporté de clarifier un peu tout ce qui s'était passé avec ma sœur. Ça m'a remise en lien avec elle. Ça a fait une synthèse de tout ce que j'ai toujours éprouvé pour elle. Et oui, voilà, d'un point de vue personnel.
Il y a un très beau texte intitulé « L'écrivaine ». Je vais vous en lire un petit extrait. C'est le milieu de la nuit et l'on voudrait dormir. Parce que, justement, c'est le milieu de la nuit. Mais on ne peut pas. Parce que ces mots, ces idées, ces expériences et ces sentiments qu'on entasse depuis des années dans sa tête, dans son cœur et même dans son corps veulent soudain en sortir. Pour s'étaler là, sur le papier, devenir concret, réel, immortel, qui sait. C'est le milieu de la nuit, mais on accouche. Et on ne peut pas dire « plus tard ». Pas maintenant, il faut que je dorme, demain sera une longue journée. Ça sort tout seul. Et alors que d'autres poussent, on se surprend à ne plus pouvoir contrôler sa main. Qui écrit, court sur le papier, déverse tous ses mots, encore et encore, au rythme de la respiration. Cette respiration, on la retrouve en filigrane dans votre récit. Et en tant que lectrice, je dois dire, on est parfois en apnée à la lecture de vos mots. Par deux fois, cette respiration s'interrompt brutalement et définitivement chez Anne et chez Geneviève, vos deux sœurs.
Oui. Oui, vous voulez que je commente ? Oui, en fait, Anne et moi, on a eu une troisième sœur qui s'appelle Geneviève Isabelle. Moi, je m'appelle Isabelle Geneviève. Inutile de dire que c'était lourd à porter. Et Geneviève, elle est née 2 ans avant moi et elle est morte le même jour... où elle est née. En fait, elle souffrait d'une malformation de l'aorte, si j'ai bien compris, qui est quelque chose qui s'opère aujourd'hui, qui ne s'opérait pas. Donc, dès qu'on lui a coupé le cordon ombilical, ma sœur n'a pas pu respirer. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui a marqué notre famille. Et oui, parce que ma mère n'a jamais pu faire le deuil de cette petite fille qu'elle n'a pas voulu voir à ce moment-là. Et... à cette époque-là, non, on ne parlait vraiment pas du tout. Quand on a enterré ma sœur, à l'église, il y avait mon père, le prêtre, et puis ma sœur qu'on enterrait. Et personne d'autre. Personne ne s'était déplacé parce qu'on ne se déplace pas pour un petit bébé mort. Il est mort. Il est mort, il va entre guillemets servir à rien. Je le dis volontairement de manière un peu provocante. Et en fait, je viens d'une famille de montagnards. Je viens d'une famille de montagnards où Mon père nous a raconté que parfois il avait faim quand il était petit. Il n'avait pas vraiment tout à fait assez à manger. Chez ma mère, ils n'avaient pas faim, mais ils vivaient très chichement. Et quand on vit comme ça et qu'on doit se battre pour survivre, eh ben on se bat pour survivre, pour être là le jour suivant, pour manger, pour se fournir à manger. Et puis on n'entre pas trop dans l'émotion. Et ça laisse des traces. Donc quand on a vécu de cette manière-là, on n'arrive pas trop à penser de ce qu'on ressent parce qu'on a appris à faire fi de ce qu'on ressent. Je pense qu'avant, c'était super fréquent que des petits bébés mouraient, qu'on perdait des enfants. Et puis, c'était comme ça. Et puis voilà, on aura un autre enfant.
Cet autre enfant, c'est vous. Et vous écrivez aussi que vous êtes un tourbillon d'énergie quand vous arrivez. Vous voulez tout comprendre. Vous avez envie de manger, je vais utiliser un terme qui n'est pas très, très, très correct, mais bouffer la vie. Hein. On sent ça quand même aussi à travers vos lignes.
Ouais, je pense que bon, ça, c'est quelque chose qui vient d'approches différentes que j'ai apprises, mais je pense que je suis née dans une famille qui était en deuil d'une petite fille, d'une femme qui a dû avoir peur à peu près tous les jours de sa grossesse, que je meurs aussi, ainsi que mon père, et que donc ça fait une sacrée ambiance, et que comme je l'ai écrit, on me surveillait comme le lait sur le feu pour voir si j'allais devenir malade aussi ou mourir, et moi je voulais ni mourir ni devenir malade, donc je me suis beaucoup donnée pour qu'on voie que j'étais bien en vie.
Oui, Suzanne.
Juste un petit intermède. Ma sœur s'appelle Anne.
Oui, aussi.
Mmh. Et on a 10 mois et 10 jours de différence. Mmh. Donc, de janvier à mars, on a le même âge.
Oui.
Vous situez ?
Oui.
Et votre sœur s'appelait Anne.
Oui.
Et on a été séparés pendant 40 ans.
Pendant 40 ans.
De part. La folie que je traversais, quoi.
Oui.
Si on peut appeler ça comme ça.
Et vous dites que vous avez été séparés pendant 40 ans. Et au bout de ces 40 ans, vous avez pu retrouver un lien avec votre sœur.
Un immense lien.
Mm-hmm. Qu'est-ce qui, si ce n'est pas indiscret, pourquoi ou qu'est-ce qui s'est passé? Comment d'un coup, au bout de autant de temps, vous avez pu retrouver un lien?
Parce que j'ai fait un article.
Oui.
Sur le grappe.
Mm-hmm.
Et je lui l'ai envoyé en photo.
Oui.
Et là, elle est venue chez moi.
Mm-hmm.
Elle a voulu rétablir le lien.
Oui. Bon, c'est magnifique.
Ouais.
Vous Anne, approuvez, Christian ?
Anne-Marie.
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 Mm-hmm. Alors, Suzanne, est-ce que vous pouvez passer le micro à Christian ?
Oui, de retrouver quelqu'un qu'on n'a pas vu pendant bien des années, ça, c'est quelque chose de vraiment formidable. Moi, j'ai été séparé de mon papa pendant bien des années, je m'excuse, parce qu'il est parti, et puis voilà, quoi. Il voulait pas s'occuper de nous, et puis un jour, je reçois un coup de téléphone. Écoute, il te faut venir, il y a papa qui veut le voir. Je vais là-bas, quoi. Il lui restait 3 jours à vivre. Il avait décidé de passer par exit parce qu'il avait un cancer généralisé et tout. C'était... Ouais. Voilà.
Mais vous avez pu le revoir.
Et j'ai pu le revoir. Ouais, c'est un petit peu... comme ma maman. Ça m'a vraiment aidé à ne plus consommer d'alcool. Parce que la veille de Noël, on en notait un. Elle avait 47 ans. Puis ça faisait déjà un moment qu'elle était malade. Elle avait une septicémie. Et puis, il a dû couper un bout la jambe. Et puis, elle était à l'hôpital à l'époque à Aigle. Puis, je viens là-bas. Puis voilà, t'inquiète pas, maman, je reviens demain. Puis, les infirmières me disent, vous savez, il n'y en a plus pour très longtemps. Bon. Moi, j'étais sécuritaire, je commence ma ronde et tout. 3h du matin, j'étais à la piscine de la Maladère, à Montreux, je lève les yeux au ciel, puis je dis, écoute, si tu existes vraiment. Tu me l'apprends. 3 minutes après, téléphone du bureau sécuritaire à Lausanne. Ça va retourner ? Oui. Vous êtes bien ? Oui. Ben nous, on a une mauvaise nouvelle. Ah bon ? Votre maman, elle vient de décéder. Bon. L'ennui, c'est qu'après, ça ne m'a pas empêché, moi, de commencer à picoler, puis on sait ce que c'est, on cache, on prend des bonbons pour dire que... Et puis on a essayé de me filer des médicaments, de l'antabuse, ça ne m'allait pas, même de la quétiapine et autres, ça ne l'allait pas du tout. J'ai dit, bon, ben, moi, j'arrête tout. Et fini, terminé. Je me bois une petite canette de bière sans alcool, là, de la Migros, point barre.
Et ça fait combien de temps que vous avez arrêté ?
Ben, maintenant, ça fait vraiment comme il faut. Ben justement, ça fait 760 jours.
2 ans.
Oui. Parce qu'avant, ben, ouais, même à mon épouse, je camouflais, puis voilà. Alors, bien sûr, la nuit, je ronflais comme c'était pas permis. Un matin, un soir, elle vient vers moi, elle me dit gnagnagna. Mais j'ai foutu une insulté, mais incroyable. J'ai dit, sale pute, mais fous-moi de craindre que t'es 4, sois vite ailleurs, je peux pas te voir, tu sais pas faire à bouffer. Enfin, un truc, mais.
Comment on peut l'être odieux, comme on peut l'être quand on est...
Quand on est ivre.
Voilà.
Bon, c'est juste horrible. Alors le lendemain, bon, bah, je me suis mis à genoux, puis j'ai demandé pardon, quoi. Mais c'est vrai que c'était quelque chose de... Alors là, bah, maintenant, bah, évidemment, on se sent... Je me sens nettement mieux.
Est-ce que vous vous êtes félicité de cette abstinence?
Ah, moi, oui.
Oui,
oui, oui. Tous les jours. Hein. Tous les jours, c'est yes, yes, yes. Puis s'il faut, ben, je regarde justement mon petit dessin, là, puis voilà, quoi.
Vous pouvez nous dire ce qu'il y a sur votre petit dessin?
Oui, oui. Attendez.
Alors, le temps que vous le trouviez, Suzanne, vous avez une petite question? Ou une petite...
Christophe, j'ai remarqué que...
Christian.
Non, Christian, pardon. Jérôme, je viens de regarder, je me plante. Christian, j'ai remarqué, moi j'ai eu ça dans la famille, hein, mon frère aîné, mon oncle, mes beaux-frères, enfin tout ça. Donc je peux vous dire que je sais ce que c'est que des gens qui tombent dans l'alcool. Hein. Mais vous êtes... des gens avec un cœur immense.
Oui, c'est vrai, mais le gros problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui en abusent de ce bon cœur. Ils sont là, puis de toute façon, c'est un poivron, c'est pas ce qu'il dit, et tout, et tout. Alors voilà, moi, ce que j'ai composé, là, c'est « Alcool, quand tu nous tiens ». La vie ne t'appartient plus. Courage et volonté, il te faut. Ô désespoir et tristesse, tu nous apportes. Oui, je ne veux plus de toi. La vie est tellement plus belle sans toi. Alcool, non.
On en revient aux mots, l'importance des mots, Isabelle.
Oui, je pense que quand on met des mots sur ce qu'on ressent, sur une décision, ça clarifie les choses et ça permet d'aller plus facilement là où on veut.
Revenons à votre livre. Comment s'est passée l'écriture?
Je ris parce que mon mari disait « tu prends tes vacances ». Bon, en fait, au départ... suite à un deuil qui survient de manière inattendue, ou suite à un grand deuil. Là, je pense à celui de ma maman. Moi, personnellement, j'ai besoin de m'isoler. J'arrive plus trop à fonctionner. Et j'ai l'impression que ça va très mal se passer pour moi si je me force à fonctionner, quoi qu'il advienne, en faisant comme si rien n'était, s'était passé. Donc moi, suite à un deuil, je vais être en contact avec mes émotions. Donc, mais j'arrive même plus à me souffler. Enfin, si, j'ai décidé tout de suite d'écrire, parce que je me suis dit que j'allais faire ce que j'avais dit à Anne. Et je suis partie en Italie. En fait, j'ai écrit mon livre entièrement en Italie, à Pietrasanta, à Marina di Pietrasanta, en Toscane, l'Italie que j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai eu un compagnon italien dont j'ai attendu des jumeaux qui malheureusement n'ont pas pu naître. Mais bref, j'ai un lien spécial avec l'Italie. Et puis je suis partie en Italie. J'avais besoin d'aller au soleil, c'est ce que j'avais l'impression. Or, le premier séjour, je suis restée à peu près roulée en boule dans une chambre à l'abri du soleil presque tout le temps. Et puis en fait, j'y suis retournée pendant 3 étés successifs et chaque fois j'écrivais sur Anne et moi. Donc sur Anne et moi, sur notre lien, sur ce que j'avais envie d'écrire. Et ma sœur, elle aimait aussi beaucoup la chaleur et la mer et l'eau. Voilà, j'étais dans un endroit qui m'était cher au niveau affectif. Et au début, hein, parce que j'ai déjà écrit un autre livre sur la protection de l'enfance, avec des récits de vie et puis des parties théoriques. Et ce livre, il est très complet, il est long et il est important. Et je pensais que le livre sur Anne et moi, il allait être long aussi. Puis en fait, il n'est pas long du tout, c'est un court récit. Parce que, comme c'est moi qui ai décidé d'écrire, j'avais envie d'écrire sur ce que moi j'avais envie d'écrire, j'écrivais comme ça me venait. Puis je me suis rendu compte que j'écrivais les mêmes moments plein de fois. Donc ensuite, à la fin, j'ai regroupé. Et puis je trouvais aussi, déjà, c'est délicat parce que je m'adresse à ma sœur qui n'est plus là. Même si je dis essentiellement que je l'aime, je parle aussi de choses difficiles. Je n'avais pas du tout envie de donner des détails et je ne trouvais pas que c'était important de donner des détails. Mais au début, ce n'était pas du tout comme ça dans ma tête. Au début, ça aurait été avec beaucoup plus de pages. Et là, ouais, comme je viens de le dire, je me suis retrouvée à devoir reformuler, par exemple, des épisodes comme celui du décès de notre sœur qui m'avait été raconté, que j'avais écrit 3 fois de 3 manières différentes. Alors j'essayais de synthétiser.
Et ce qui est intéressant, et je trouve ce qui donne aussi tout le sel de votre récit, c'est que vous utilisez le « tu » et le « je ».
Oui, alors au début, je n'ai pas commencé comme ça. Au début, j'ai commencé à la troisième personne. Enfin, je ne savais pas trop comment faire. Je ne voulais pas trop anonymiser. Et puis, au début, quand même, je pensais faire comme un écrivain qui parlerait de quelqu'un d'autre. Puis ça venait super lourd. Alors, les tournures de phrases. Et puis après, je me suis dit mais que j'allais m'adresser à Anne directement. Pour être tout à fait claire, Anne, ma sœur, elle n'aurait rien appris en lisant mon livre, parce qu'elle le savait. Parce que ce qui est particulier, c'est que le lien à l'intérieur, en tout cas pour moi, il a subsisté, toujours. Et dans ma tête, on était en pétard, comme on dit, mais on allait un jour se retrouver. Et puis voilà, parce que quand on discutait, en général, on pouvait toujours discuter, arranger les choses. Là, moi, j'étais très blessée de choses qu'elle avait dites, et j'avais pas du tout envie de discuter.
Est-ce que l'on arrive à oublier ce monstre ?
Alors, entre deux décompensations, ben, la personne qui souffre d'un trouble bipolaire, c'est une personne qui fonctionne ou qui a l'air de fonctionner de manière habituelle. Donc à ce moment-là, on n'y pense pas. Après, au fur et à mesure des répétitions, en voyant qu'en fait ça revient, c'est pas un épisode isolé, ben, on a toujours une petite crainte. Moi, j'avais des craintes quand il y avait des événements familiaux difficiles, comme quand mon père est tombé malade et après qu'il est décédé. Puis effectivement, j'avais des craintes. Puis ensuite, ça se passait pas très bien pour Anne.
Est-ce que vous avez eu peur de développer aussi une maladie
Oui, oui, mentale. Oui. Alors, ma maman, elle était un peu fragile psychologiquement. Je pense qu'elle a été totalement dévastée par la perte de ce bébé dont elle n'a jamais pu parler ouvertement. D'un bébé dont elle n'avait qu'une peur, c'est qu'il soit dans les limbes, aéré pour toujours. Les limbes, pour les catholiques, c'était un espace-temps indéfini où les petits bébés non baptisés passeraient leur éternité. Elle a eu très peur de ça. J'ai perdu le fil. Et puis après, mon père, notre père, a eu une démence sénile. Alors pour moi, j'allais devenir malade. Hein. C'était tout à fait clair, sans l'ombre d'un doute, que j'allais devenir malade. Et je me disais, quand il va y avoir un choc trop fort, je vais tomber malade comme Anne. C'était pour moi une certitude. Sauf que des chocs, j'en ai eu un certain nombre, notamment avec la maladie de mes parents, entre autres, mais pas que. Et puis j'attendais que ça vienne. Et pour moi, c'était tellement évident que ça allait se passer, que j'en avais jamais tellement parlé à quiconque, médicalement. Et puis un jour, en thérapie ou en séance chez ma psy, je lui ai dit, mais je vais tomber malade, je pense que je vais tomber malade, voilà. Et puis là, je pense que j'avais 45 ans, puis elle m'a dit, mais Isabelle, vous n'allez pas développer cette maladie-là, parce que si vous aviez une tendance à... Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais quels sont les bons mots, mais si vous étiez bipolaire, vous seriez déjà malade. Vous pouvez avoir des événements difficiles, vous pouvez devenir très anxieuse si vous avez beaucoup de choses à gérer, mais vous n'allez pas devenir bipolaire. Et là, ça a été quand même ça a été un vrai soulagement. Parce que oui, j'étais persuadée que je serais malade un jour. Je voyais bien que ça venait pas.
Mélissandre, je vous vois très attentive aux propos d'Isabelle.
Oui, c'est vrai que je comprends un peu cette peur, justement, de... Enfin, je comprends, j'arrive à imaginer cette peur de se dire que tout le monde est malade dans la famille. Moi aussi, pourquoi ça vient pas? C'est quand que ça arrive? Et puis on l'attend au tournant, et en fait, le tournant n'est jamais là. Mais c'est vrai qu'après, ça me fait gentiment rire. Ben, justement, c'est y a des signes de ce genre de ce type de maladie, des signes qui arrivent très tôt. Après, c'est tout un méli-mélo de potentiels diagnostics, on ne sait jamais, etc. Mais c'est vrai que ça me fait doucement rire, le fait de l'attendre un peu et puis de flipper comme ça, alors que c'est vrai que ça peut quand même arriver assez tôt dans la vie en général.
Et ce n'est même pas spécialement que ça me fait flipper, j'étais sûre. J'étais sûre que ça allait venir, ouais. Parce que quand vous accompagnez votre père qui a une démence sénile chez un psy, votre sœur chez son psy, et puis votre mère qui a décompensé suite à tout ça chez un psy, vous dites, on peut aller chez un psy, ce qui était d'ailleurs mon cas, sans avoir une pathologie importante psychiatrique chronique. J'étais trop proche pour m'interroger. Il n'y a plus de raisonnement logique, parce qu'effectivement, je sais que la bipolarité, normalement, elle survient en début d'âge adulte, etc. Mais je ne sais pas, j'étais prise par la chose. Il s'agissait de moi, de ma famille, je n'ai pas réfléchi comme ça.
Est-ce qu'il y a la petite fille solaire, là, qui a dit non, ça ne passera pas par moi?
Non, pas du tout, alors non. Non, non, parce que la petite fille, non. Comme je vous dis, je pensais que oui, ça allait arriver un jour. Et si ça n'est pas arrivé, c'est parce que j'ai la chance de très certainement ne pas avoir de prédisposition génétique à développer cette maladie. Et c'est tout.
Suzanne.
Eh bien, moi, je vais vous dire. Écoutez bien. Ça peut devenir une terrible force de personnalité. Regardez celui qui s'en sort et qui est sur une chaise roulante et qui fait des sports d'élite. Vous avez déjà vu ça? Eh bien, ça existe. Donc, Christian disait, si c'est dans ce sens ou dans ce sens... Et moi, je dirais que allons de l'avant un jour à la fois et découvrons ce que cette maladie nous apporte. Elle nous apporte des choses extraordinaires que personne ne connaît. Voilà.
Vous avez envie de rajouter quelque chose, Isabelle ?
Oui, je pense qu'effectivement, quand on est confronté à la maladie, en particulier à la maladie chronique, d'ailleurs qu'elle soit physique ou psychique, ben on développe des compétences que d'autres gens n'ont pas à développer. Parce qu'on est obligé de développer des compétences, sinon c'est la fin.
Christian.
Bon, j'ai une phrase que j'aime bien me répéter, puis que je répète souvent à qui veut l'entendre. C'est patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Parce que quand on est là, puis qu'on se dit, des fois, il vaut mieux se dire, oh oh. Prends le temps, calme-toi.
Et parfois aussi, on écoute un peu de musique. Un extrait de Casse-Noisette, c'est la danse russe, c'est votre choix, Isabelle, pourquoi ?
Oui, c'est mon choix parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de danse, dont de la danse classique, et que quand j'avais, je pense, 13 ans, c'est le premier vraiment grand ballet dans lequel j'ai dansé, à Sierre, dans l'école de danse dans laquelle j'étais, on était 6, je pense, et je dansais les danses russes, et Anne était venue me voir, j'étais très, très fière.
Quelle définition donneriez-vous au mot « sœur » ?
La sœur, c'est une personne irremplaçable, très proche, tellement proche qu'elle peut être à la fois une alliée ou parfois agressée. C'est quelqu'un qu'on connaît et qui nous connaît. Parce qu'une sœur, en tout cas à un moment de sa vie, on la voit tous les jours, en principe. Alors qu'une amie, on la voit quand on a envie de la voir. Et face à une sœur, on est un petit peu transparente. Notre sœur, elle nous connaît.
Je ne sais plus si c'est vous qui avez dit être en contact avec ses émotions, ou c'est Mélissandre peut-être, ou Suzanne, je ne sais plus. En tout cas, quelqu'un d'entre vous a dit à un moment donné qu'il fallait être en contact avec ses émotions. Ça doit être vous, Isabelle.
Oui, c'est possible. Oui, par rapport à la période de deuil, que je voulais être en contact avec mes émotions. Oui, bien sûr. Les émotions, c'est ce qui fait qu'on se lève le matin, qu'on travaille, qu'on a des amis, qu'on... c'est un moteur interne et on n'est pas des robots.
Être en contact avec vos émotions, Mélissandre ?
C'est hyper important. Ça permet aussi de mieux les comprendre et mieux de les gérer. Et aussi, justement, pouvoir comprendre, gérer et puis aussi éviter de les cacher, parce que ça arrive souvent, particulièrement la colère, qui cache beaucoup d'autres émotions comme l'angoisse, la tristesse, etc. Et justement, ça permet garder un contact avec ces émotions, ça permet justement de rester sain dans sa vie et puis de pas réagir à ces émotions de façon malsaine, on va dire.
Suzanne, être en contact avec ses émotions, avec le micro, c'est mieux.
Oui, mais pas trop. Il faut les surpasser, encore une fois. Hein. Il faut les surpasser. Parce que si vous restez dans vos émotions, eh bien, vous avez mal au bide, vous avez l'angoisse qui survient. Et ça, non. Il faut surpasser. Tchic ! On va plus loin.
C'est joli, j'aime bien ce tchic. Christian, qu'est-ce que vous en pensez de se surpasser ?
Oh, mais...
Avec le micro.
Je trouve que dans la mesure où on y arrive, ça peut être quelque chose d'extraordinaire pour soi. Parce que, voilà, puis on se sent mieux, et puis voilà, on est... Ouais, on est nous-mêmes, quoi, quelque part. Puis on se dit, ben voilà, j'ai fait quelque chose d'encore mieux que... À vous. Je trouve que, oui, ça peut être bien. Ouais.
On arrive gentiment au terme de cette émission et je vous remercie infiniment, Isabelle Wüstiner-Zuber, d'avoir partagé ce moment ici à Malévo avec nous autour de cette table. J'avais envie de vous faire un petit cadeau parce que dans le livre, dans cette lettre à votre sœur, vous évoquez le fait que vous adoriez dessiner et que vous avez été contrainte, comme beaucoup de personnes de votre génération, à écrire de la main droite, alors que vous étiez gauchère.
Oui.
Et vous avez abandonné le dessin.
Oui, parce que c'est devenu très difficile. J'avais très très mal, même en écrivant. Donc, je dessinais, je me souviens que j'aimais beaucoup dessiner, que je faisais des dessins qui me semblent tout à fait normaux pour l'âge que j'avais, et jolis, que je trouvais jolis, et puis on m'a forcé de changer de... Demain, je n'arrivais plus à dessiner, je n'arrivais pas à écrire non plus. Donc, j'ai fait autre chose.
Oui, alors je vous offre quand même cette petite boîte de carandache de 5 crayons de couleur.
Merci
histoire
beaucoup.
Que vous peut-être redessignez des arcs-en-ciel.
C'est très gentil, merci beaucoup. Et puis, merci beaucoup de m'avoir invité. C'était un moment très, très intense et touchant. Et j'étais ravie d'être là et merci à tous ceux qui sont venus.
Christian, vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, alors moi j'ai fait traduire une chanson de Paul Stanley qui s'appelle « Live to Win » en français. Et ça me donne une idée pour faire moi-même une chanson que j'aimerais bien donner à Nuit Incolore parce que j'aime bien ce chanteur. C'est « Frustré, dégradé, abattu avant d'avoir fini ». Rejet, dépression, ne peux pas obtenir ce que tu veux. Tu me demandes comment je fais mon chemin. Tu me demandes par tout et pourquoi. Tu t'accroches à chaque mot que je dis, mais la vérité sonne comme un mensonge. Vivre pour gagner jusqu'à la mort. Ça, c'est juste une partie. J'adore cette chanson. Bon, je suis un grand fan de Kiss. Donc, voilà, quoi. Mais je me suis dit, là, Live to Win, ça me dit quelque chose. Puis je dis, bon, bah, je regarde, puis j'ai fait télécharger. Je dis, oh, ça va me donner une bonne idée.
Ah ben oui, bah, c'est bien de concrétiser ses envies. C'est
oui,
très, très bien.
Et
bravo.
Puis j'aimerais bien aussi c'est regarder avec Ursula Meyer, celle qui a fait le film La Ligne.
Oui.
J'ai été là-bas comme figurant. Et puis lui proposer justement de faire un film sur moi depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, par où je suis passé. Parce que j'ai passé par des moments vraiment terribles. Hein.
En tout cas, merci de les partager avec nous autour de la table du studio de Pavillon Nomade. Pavillon Nomade, c'est une radio qui s'écoute en direct et en différé sur le site www.pavillonnomade.ch. Isabelle Wüstiner-Zuber, cette lettre à ma sœur entre raison et déraison va paraître incessamment aux éditions Pilet et vous serez en dédicace le 8 novembre à la librairie Saint-Augustin à Saint-Maurice et le 15 novembre à la librairie La Liseuse à Sion.
Oui, et le 28 novembre chez Payot à Sierre, où j'habite.
Voilà, si vous avez envie de retrouver, de partager un moment avec vous, avec Isabelle Wüstiner-Zuber, eh bien, vous avez ces trois dates. Et puis, vous pouvez réécouter l'émission en tout temps. On va se quitter en musique avec Les Filles des Forges, qui est aussi un de vos choix. Isabelle, merci. Merci à vous toutes et tous qui étaient autour de la table. Merci à Dominique, Pascal et Julien. Et à jeudi prochain.
Merci.
Les forges des guignons, non, ce sont les filles des forges des forges de pimpon, du guignon, non, des forges de pimpon, du guignon, naine, des forges de pimpon, du guignon, non, non, elles s'en vont, ta confesse, non, non, elles s'en vont, ta confesse, oh, guignon, naine, oh, curé du canton, du guignon, non, oh, curé du canton, du guignon, naine, oh, curé du canton, du guignon, non, les filles du Glindon, donc qu'avez-vous fait les filles pour du Glindon, naine, pour demander pardon du Glindon, non, pour demander pardon du Glindon, naine, pour demander pardon du Glindon, non, les balles du Glindon, donc j'avions couru les balles et les jolis garçons du Glindon, non, et les jolis garçons du Glindon, naine, et les jolis garçons du Glindon, non, danse du Glindon, non, ma fille pour pénitence. Nous embrasserons du Glindon, non, nous embrasserons du Glindon, naine, nous embrasserons du Glindon, non, prêtre du Glindon, non, je n'embrasse point les prêtres, mais
les jolis garçons du Glindon,
du foyer au menton du Glindon, non, mais les jolis garçons du Glindon, naine, con du foyer au menton du Glindon, non, des forges du Glindon, non, ce sont les filles des forges, des forges de pimpon du Glindon, non, des forges de pimpon du Glindon, des forges de pimpon du Glindon, non, des forges de pimpon du Glindon, non.